2025, c'est l'année des 100 ans de l'inauguration du théâtre du Chemin Vert. Quel événement! À cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir en studio et donc sur Radio Primitive Vincent Marcoux. Vous êtes responsable, tu es responsable, on a dit, on se tutoyait, ouais, de la maison commune du Chemin Vert, directeur aussi artistique du Cellier, pour encore plus faire gros sur le CV. Avec nous ce matin, Cassandra Niquès, qui est aussi également présente. On va parler de cet anniversaire tous ensemble, parce qu'il se prévoit plein de choses. À la fin du mois, vous allez commencer à fêter, du coup, votre établissement. L'établissement qui a été créé par Georges Charbonneau, si je ne me trompe pas, et qui accueille aujourd'hui encore de nombreux événements, parce que ça permet de retourner dans l'histoire, mais il se passe encore plein de choses chez vous, à la Maison Commune du Chemin Vert. Vincent, t'as pris la direction de la Maison Commune en 2012, si je me trompe pas. C'est une histoire que tu partages souvent, l'histoire de la Maison Commune du Chemin Vert, et pas que pour ce centenaire.
Oui, parce que c'est un lieu tellement particulier que on peut pas y être juste 8 heures par jour, c'est pas possible. Donc en fait, il y a un moment donné, ouais, on vit un peu avec ça. Je crois que je saoule un peu autour de moi avec ça. Et puis je suis rémois, je commence à faire partie des vieux rémois, donc évidemment ce quartier, je le connais, ma famille en parlait, même s'il n'y avait pas d'origine dans ce quartier. Et puis j'étais au lycée à Jean Jaurès dans les années 80 et on allait à la piscine aux Tiolettes, donc on traversait le quartier du Chemin Vert, et à cette époque-là il n'aurait pas fallu s'arrêter avant l'arrêt de bus des Tiolettes, parce que c'était un quartier qui était un petit peu chaud, quoi.
Ah ouais,
enfin chaud, ouais, c'était un quartier qui était un peu sulfureux. Je pense qu'on se serait fait un peu taper la tronche, hein. Bon voilà, tout ça, ça a changé beaucoup, et c'est vachement bien.
Aujourd'hui, vous accueillez plein de choses à la Maison Commune du Chemin Vert, comme vous l'avez toujours fait. Il y a des activités, il y a des associations qui viennent se saisir de votre lieu et y proposer des choses. Il y a des spectacles, des concerts. Enfin, on peut pas vraiment faire le tour comme ça en deux minutes de tout ce qui se fait chez vous. Mais raconte-nous déjà comment toi, tu as construit la programmation anniversaire des 100 ans de la Maison Commune.
Ben, peut-être faire un petit voyage quand même, il y a une douzaine d'années. En fait, ce lieu a été une association pendant très longtemps, puis un centre social, avec aussi un statut associatif, puis une maison de quartier. Ça, c'est un peu l'idée, l'histoire socio-culturelle du lieu. Quand on a évidemment labouré beaucoup les archives et on lit que c'était déjà presque une maison de la culture avant les maisons de la culture d'André Malraux, qu'il y avait déjà un projet d'éducation populaire très très fort, appuyé beaucoup sur la culture depuis les années 20, et que donc de fait cette baraque dans les années 20, c'est déjà l'ancêtre d'une maison de quartier qui seront imaginées avec les MJC dans les années 60-70 dans les quartiers comme Orgeval par exemple. Bon, du coup, une fois qu'on a dit tout ça, c'est sympa, sauf qu'en 2007, en fait, les maisons de quartier vont quitter les murs parce que le bâtiment est vétuste, parce que il y a une rationalisation aussi de ces multitudes de structures qu'il y avait un peu partout dans la ville. Et donc, du coup, il y a une maison de quartier qui va garder cette appellation dans le quartier, qui s'appelle la maison de quartier Cerne Europe. Et du coup, le centre social du Chemin Vert, ben, il va devenir autre chose, on sait pas trop quoi. Et c'est la mairie qui va être, à qui on va proposer la gérance de ce bâtiment. Il va falloir quatre, cinq ans, pour trouver un vrai projet culturel, parce qu'il y a deux équipements éminemment culturels dans le bâtiment. La bibliothèque du Chemin Vert, qui faisait déjà partie depuis les années 80 du réseau de la bibliothèque municipale. C'est une des trois bibliothèques de quartier de Reims. Le théâtre. Et un théâtre, c'est un équipement quand même très particulier, qui est très normé, notamment au niveau des sécurités, etc. Donc, faut forcément un peu des cultureux pour savoir gérer ce machin. Donc, à partir de là, en 2008, la ville récupère le bâtiment. Et en 2012, ils décident, on est sous le mandat d'Adeline Hazan, et il y a une envie de faire de cet établissement une maison des pratiques amateurs. Il y a un petit recrutement qui est lancé, et là-dessus, j'arrive. Et voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on fait là-dedans depuis 12 ans? Alors, très clairement, en fait, dans mon projet culturel sur lequel j'avais été recruté, ça me semblait évident qu'on continue de travailler avec les gens qui y étaient, parce que sinon, bon, bah, je pense que ma voiture aurait souffert et puis j'aurais remballé mon projet. On n'est pas à Beaubourg, ni à la Comédie de Reims, ni je sais pas quoi. C'est un établissement culturel, mais qui doit rester en prise avec son quartier. C'était aussi une commande politique. Pour autant, il faut arriver à le tirer vers un établissement culturel et plus un établissement social. Donc voilà, ça c'est un petit peu le truc. Alors, on a continué de développer la présence des associations à l'intérieur. avec une multitude de propositions et une grande majorité de propositions culturelles et artistiques, bien sûr, mais il y a encore, par exemple, les assistantes maternelles du quartier qui amènent les enfants qu'elles ont en garde pour développer plein de projets. Ça peut être de la motricité, comme ça peut être des projets culturels. Donc, on a quand même... En fait, c'est un établissement culturel qui est open sur un quartier et du coup, ça en fait presque un tiers-lieu. Moi, ça me choque pas quand il fait froid que les mômes... Même s'ils n'ont rien à faire de la bibliothèque, ils viennent s'installer à la bibliothèque pour jouer au Monopoly, par exemple. Je trouve que du coup, ça permet...
Ça croise des publics.
Bah ouais, puis ça permet d'ouvrir l'idée de la culture. Enfin, à un moment donné, on nous dit toujours le non-public. Les gens qui ne fréquentent pas les établissements culturels disent toujours « Non, mais moi, je n'ose pas rentrer. » Parce que c'est cher, parce qu'il faut être habillé, parce que je ne sais pas quoi, parce que je ne comprends rien. Ben, il suffit d'ouvrir simplement parce que les gens ont envie de pisser, quoi. On se balade dans un bâtiment public, il y a forcément des toilettes qui sont publiques. Donc à partir de là, on a envie d'aller aux toilettes, eh ben on pousse la porte. Et déjà, en poussant la porte pour des raisons pragmatiques, eh ben on est quand même dans un bâtiment culturel. Et je sais, par expérience, que ça infuse quelque chose, quoi. On ne va pas pisser dans un théâtre de la même manière qu'on irait pisser à la gare. Bon, voilà. Ça, c'est peut-être un peu basique, mais... je pense que la démocratisation de la culture, elle commence là, en fait, en ouvrant ces établissements. Et puis, de toute façon, c'est un établissement qui a toujours été ouvert. Basta. Donc voilà, il y a les assos. Après, on y fait des ateliers de pratique artistique amateur. Peut-être qu'on aura le temps d'en toucher deux mots pour justement inciter les gens à avoir une pratique artistique en amateur. Alors, dans toutes les disciplines, la seule limite de la discipline, c'est en fait les capacités techniques du bâtiment à accueillir quelque chose. Alors, la radio, je crois que Radio Primitive a un peu commencé dans cette histoire de chemin vert il y a des milliards d'années. Bah, ça serait plus possible parce que le bâtiment est effectivement vétuste. Le bruit court de tous les côtés, c'est un truc en béton des années 20, enfin bref. Donc voilà, ça par exemple, c'est une limite à l'exercice. Mais on fait plein d'autres choses. On peut faire du cirque, on peut faire du hip-hop, on peut faire plein de choses. Et puis après, il y a la programmation grâce à ce théâtre où on répète et où on joue des propositions artistiques. Alors vraiment, dans tous les styles. Moi, je dis toujours que j'ai une table de mixage et avec un curseur que je balade entre des projets parfois un peu perchés, un peu un télo, un peu je sais pas quoi, un concert de musique classique. Alors, ça a rien d'un télo, mais pour certains, ouais, ça peut être je sais pas quoi. En tous les cas, inatteignable. Et puis à côté, on peut avoir, par exemple, les galas de fin d'année, à partir d'avril, on va avoir une multitude d'enfants, pas que des enfants d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Voilà. Donc en fait, je dis pas que ça, c'est le degré zéro du projet artistique, loin de là, mais l'exigence n'est pas la même, par exemple, que sur un spectacle, sur un concert de musique classique. Et pour autant, c'est de la pratique artistique amateur. Et donc voilà. Donc ça m'amuse. Et c'est là où je balade le curseur. Entre un projet d'école, par exemple, où les enfants viennent chanter, ou viennent faire par exemple des scénettes en anglais, et un concert de musique classique proposé par des professionnels. Donc ça m'amuse beaucoup.
Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se passent à cette maison commune du chemin vert. Et pour ce centenaire, vous avez préparé notamment une exposition. Et c'est avec toi, Cassandra, qu'on va aborder ça, si tu le veux bien, ce midi. Comment tu as organisé cette exposition? Elle s'appelle 100 ans de maison commune, d'une utopie sociale pour tous, à une maison pour chacun. C'était une façon de s'approprier aussi et de montrer que les gens s'approprient ces lieux. C'est ce qu'on a bien compris après tout ce que tu nous as dit, Vincent. Parle-nous de son élaboration, de cette exposition.
Alors déjà, cette exposition, il faut savoir que c'est pas moi qui l'ai montée, c'est vraiment toute l'équipe. Et d'ailleurs, le titre, c'est Vincent qui l'a trouvé, c'est pas moi. Mais effectivement, c'est une exposition où en fait, il y a à peu près un an de ça, quand on a sérieusement commencé à travailler sur la programmation avec l'équipe sur le centenaire, on a très vite pensé à cette exposition et très vite, on s'est dit, en fait, il faut qu'on fasse appel aux gens qui ont vécu, entre guillemets, dans le quartier et surtout qui ont vécu aussi dans cette maison, quelque manière que ce soit, que ce soit en venant faire la fête, juste en venant faire une activité, que ce soit de manière plus régulière aussi, pour une activité associative ou pour des spectacles. Il fallait en fait qu'on puisse se nourrir vraiment des témoignages des personnes qui sont passées par cette maison, qui ont vécu quelque chose. Donc l'idée c'était de réunir un maximum d'informations et surtout de documents, de photos, de témoignages écrits, de témoignages audio. On a pu rencontrer quelques personnes qui ont accepté de nous prêter leur voix pour nous raconter un petit peu leur histoire dans cette maison et plus largement dans le quartier, puisque du coup la maison est fondamentalement liée au quartier, évidemment. Donc on a eu l'occasion de rencontrer notamment des dames très âgées qui fêtent aussi leur centenaire, donc c'est assez rigolo comme parallèle. Qui nous ont raconté leur vie, comment elles se sont appropriées ce lieu aussi. Et donc effectivement, on a reçu beaucoup de photos, donc des personnes qui ont pris le temps de venir nous voir. Alors bien souvent, c'était couplé à des visites du lieu, puisque évidemment, on s'entend, il s'en passe des choses. Donc ouais. Le lieu, il évolue, il change, il est rénové, il est transformé.
Et puis c'est des gens qui ne sont peut-être plus à Reims aujourd'hui, c'est ce qu'on abordait un peu avant notre interview.
Il y a des personnes qui sont encore à Reims, mais qui sont dans un autre quartier, ou il y a des personnes effectivement qui sont ailleurs dans le Grand Reims, voire dans d'autres départements. Et donc c'est des personnes avec qui on prend le temps d'avoir un petit temps d'échange, parfois on prend un café avec eux, on discute, ils nous racontent leurs anecdotes, ils nous confient leurs photos, et en fait ces photos-là on les a toutes scannées. Alors évidemment l'idée c'est pas qu'on garde les photos derrière, les originaux sont rendus à leur propriétaire, mais par contre ce qu'on propose quand même derrière cette exposition, on a fait toute une sélection de documents, parce qu'évidemment on peut pas tout exposer, on a vraiment reçu beaucoup de choses, mais l'idée c'est qu'on puisse archiver tout ce qu'on nous a donné pour pouvoir faire un dépôt aux archives municipales.
Oui, puis préserver cette mémoire au fur et à mesure du temps de cette collecte en fait.
Tout à fait, parce qu'on a reçu beaucoup de choses et pas que de la maison commune, forcément on a aussi reçu des photos du quartier, des maisons dans le quartier, des photos de famille parfois, enfin des documents parfois même très touchants où on voit des petites filles en robe d'époque qui posent devant la maison avec leurs animaux de compagnie ou avec leurs jouets. Donc il y a des choses vraiment assez intéressantes, assez touchantes.
Super, cette exposition, elle sera visible à partir du 25 février pendant plus d'un mois.
Oui.
C'est aussi le choix que vous avez fait de laisser aussi le temps aux habitants de découvrir cette histoire, la collaboration justement des personnes à ce projet. Ça fait partie du centenaire de la Maison Commune du Chemin Vert. Si vous le voulez bien, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec une artiste qui n'est pas sans lien en fait avec ce centenaire, puisqu'elle nous ramène un petit peu plus de 100 ans en arrière, et elle nous permettra après de parler de ce qui compose aussi les autres événements qui composent cet anniversaire et que vous avez organisé ensemble pour fêter la Maison Commune du Chemin Vert. Je vous propose que nous écoutions Miss Tinguette avec son morceau « Avez-vous vu Hubert ?»
Dans mon équipage, je cherche en vain quelqu'un que j'ai perdu. Ma présence partout fait grand tapage, car je crie, mon chéri, où donc es-tu?
Mamselle, pourquoi vous affliger? Que puis-je faire pour vous obliger?
Avez-vous vu Hubert et son petit paletot vert?
Vous parlez sûrement de votre amant.
Avez-vous vu Hubert et sa petite queue en l'air?
Il s'agissait certain de votre chien.
Avez-vous vu sa bonne petite fille et son train-train arrière qui se tortille?
Je n'ai rien vu tout ça.
Vous ne m'intéressez pas, car avoir vu Hubert. Mais voici qu'un monsieur sympathique arrive avec un chien qui n'est pas le mien. Et par ici, ça se complique. En voici un second avec deux chiens. C'est fou, il en vient de partout. Voyons, messieurs, mais que voulez-vous?
Nous venons pour Hubert et nous sommes tous très fiers d'être à ce rendez-vous fixé par vous.
Vous venez pour Hubert, j'oubliais qu'avant hier, je vous avais convié pour le marier. Mais comment célébrer un mariage quand le futur époux est en voyage? Je vous en prie, messieurs, cherchez partout, partout, tâchez d'avoir du flair et de retrouver Hubert. Oh! Oh, c'est pas possible! Tout à coup j'entends comme une plainte, mais c'est la voix d'Hubert, il n'y a pas d'erreur. Où est-il, messieurs? Je meurs de crainte.
Nous envoyons partout des éclaireurs.
Ça y est, mon Dieu, quelle émotion! Je l'avais laissé dans mon manchon. J'ai retrouvé Hubert et son petit paletot vert.
Alors qui voulez-vous, qui soit les
vous m'offrez pour Hubert des boules d'or, des coquères, mon bon petit trésor, on veut ta mort.
Je crois bien que j'ai trouvé son affaire.
Alors monsieur, mais que comptez-vous faire?
Je vous propose la main de ma chaîne pour votre chien.
Faut d'abord savoir, mon cher, ce qu'en pense Hubert. Avec votre petite chienne qui vous lèche.
Je m'appelle Hubert aussi.
Oh, puisqu'il en est ainsi, vous et mon chien, c'est clair, vous serez mes deux Hubert.
Eh ben, Miss Tinguette a très certainement retrouvé son Hubert. Il est 12h02 sur Radio Primitive et revenons à l'actualité dont nous abordons un petit peu plus précisément le programme aujourd'hui. Il s'agit des 100 ans de la maison commune du Chemin Vert avec nous ce midi Cassandra et Vincent pour nous parler du programme qu'ils ont élaboré pour fêter ce centenaire. Un programme qui est fait d'une exposition dont on parlait tout à l'heure, mais il y a plein de choses qui vont se passer. Pour ne citer que brièvement certaines des propositions que vous avez construites autour de cet anniversaire. Il y a notamment un ciné-goûté, un escape game qui a l'air de faire peur un petit peu d'ailleurs sur les fantômes et tout ça. Il y a plein de choses qui vont se passer, notamment le rendu aussi d'un atelier qui a eu lieu sur, enfin la présentation d'un travail, si je peux dire comme ça, qui s'est tenu sur plusieurs séances de travail. Un atelier plumasserie. Est-ce que vous voulez bien nous en toucher deux mots pour nous présenter cela? Ça aura lieu le 27 février, si je ne me trompe pas.
C'est tout à fait ça. Dans plumasserie, il y a plume. Voilà. En fait, la plumasserie, c'est l'art de travailler la plume pour en faire un petit peu ce qu'on veut. Alors, quel rapport avec les années 20? Les plumes ont été beaucoup, beaucoup intégrées aux costumes à travers l'histoire, beaucoup dans les années 20. Et du coup, on a travaillé avec un artisan d'art rémois qui s'appelle Éric Charpentier, qui fait partie de l'atelier Hyperespace. Et Éric... et à la fois relieur et plumassier. Et donc, on a fait 10 séances avec une quinzaine de dames. Je suis le seul mec avec Eric. Un univers très féminin. Mais du coup, c'est, ouais, c'est étonnant. Et on travaille. Alors, la commande qui était faite à Eric, Eric, il fait beaucoup des objets de cabinet de curiosité dans sa production. Il fait pas vraiment de l'accessoire de mode. Là, l'idée, c'est qu'on travaille sur la fleur artificielle, la fleur en plume. Et que du coup, ça puisse devenir un accessoire un peu comme dans les années 20 pour mettre à la boutonnière.
Ou sur le chapeau.
Sur le chapeau, le bandeau, etc., etc. Donc en fait, ce jeudi 27, on présentera... alors, on a une trentaine déjà de personnes qui sont inscrites à cette présentation, plus évidemment les participants. Et Eric présentera son travail. On présentera nos production, tout ça avec un moment convivial évidemment tourné.
Donc vous vous êtes prêté au jeu, vous?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait alors? Racontez-moi un petit peu à la suite de cet atelier, vous avez confectionné quoi?
On a confectionné beaucoup de fleurs. on y a été étape par étape, on a pu voir un petit peu quelques petite technique de base avec Eric, du coup, qui nous a un peu transmis de son métier, finalement, au cours de ces quelques séances. On a pu confectionner notamment ce qu'on appelle une minoche, si je dis pas de bêtises. C'est une petite... une petite grosse broche, quand même.
Ouais, ouais.
Une broche à partir de plumes. Et puis, de là, on a pu voir plusieurs techniques pour confectionner différentes fleurs. Alors, tantôt en superposant des plumes, tantôt en les frisant. Voilà, on a un petit peu fait, j'allais dire le tour, non c'est pas vrai, on peut jamais faire le tour en quelques séances, mais on a pu voir comme ça plusieurs petites techniques.
Ça fait voyager aussi dans le temps cette pratique, et justement vous proposez également pour, alors pas pour vraiment clore ce festival, et on en parlera ce festival, je dis parce que c'est une série d'événements au final, vous proposez quelque chose qui a du lien avec la plumasserie, le costume, c'est deux soirées cabaret. Ça aussi, ça va faire voyager.
Bah en fait, évidemment, vu ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez bien compris que ce qui nous anime, c'est de proposer une programmation qui soit la plus rassembleuse possible. D'abord qu'elle puisse s'adresser aux voisins, c'est-à-dire la maison d'à côté, comme elle puisse intéresser un spectateur qui a une pratique culturelle en allant dans les institutions culturelles de la ville, la Carto, la Comédie, le Manège, etc. Donc du coup, et ça c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on programme un spectacle. Un ciné goûté pour les enfants, on essaie que ce soit très rassembleur. La soirée apéro d'automne qui est notre soirée de saison, c'est pareil. Donc c'est complexe parce qu'il faut trouver une forme qui soit suffisamment grand public pour n'exclure personne et pour autant que ça plaise à tout le monde. Alors, c'est un exercice, c'est un peu un grand écart, mais bon. Voilà. Et donc, quand on s'est dit, il faut un spectacle pour célébrer ses 100 ans, comme il y a 100 ans, c'est-à-dire le 28 février 1925, il y a eu un spectacle dans cette salle. Et donc, on s'est dit, ben, finalement, la forme la plus grand public, c'est sans doute le cabaret. On travaille d'ailleurs autour de ce cabaret avec les gens du manège, avec le directeur du manège, Bruno Lobé, qui... l'idée est venue ensemble, et puis c'est Bruno qui nous a conseillé des artistes parce que je suis sorti un peu du circuit national. Maintenant, je suis devenu très sédentaire à Reims. Donc bref, du coup, on a construit ça ensemble, et puis après, on a rencontré ces artistes qui se produisent beaucoup au Lapin Agile à Montmartre. C'est quand même le monument historique du cabaret. C'est le cabaret d'Aristide Bruant. C'est là la bohème et tout. Enfin, c'est vraiment le lieu central de la bohème, des grands peintres et tout le bazar. C'est là où on mangeait contre une toile. Hein. C'est ça le Lapin Agile. Donc voilà. Du coup, on est vraiment au cœur du cœur. Et en même temps, l'idée, c'était qu'on fasse pas un truc très passéiste. Alors, ce que nous ont proposé, notamment Carole Poulain, qui est la conceptrice du cabaret, elle va être là avec 5 autres artistes, c'est de faire une évocation de ses 100 ans. Comme si on racontait l'histoire de 100 ans d'un quartier à travers des chansons de cabaret, c'est-à-dire des chansons très populaires, quoi, où on fait, bah, c'est la mise t'inquiète, quoi. Souvent avec des sous-entendus terribles.
Et c'était l'époque, hein.
Bah oui, c'est un peu l'époque, mais en même temps, il n'y aura pas que des choses anciennes, parce que, dans ces 100 ans, il y a aussi des années 2000, et il y aura, par exemple, des chansons, des créations, qui ont été écrites pour l'occasion. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Il y aura sans doute de la mistinguette, il y aura évidemment des roses blanches et les trucs terribles qui font pleurer parce que les enfants perdent leur maman. Et en même temps, il y aura des trucs plus joyeux, genre, chanteur de Mexico, enfin voilà. Donc. Ça, l'idée, c'est qu'on se marre, qu'on prenne beaucoup de plaisir, parce que c'est un anniversaire.
Ouais.
C'est bien aussi de réfléchir. Donc, c'est pour ça qu'on commencera lundi avec une conférence sur l'habitat social, puisque c'était la mission première de ce quartier. Mais c'est bien de finir aussi je dis pas dans la paillette et dans la plume, mais bon, un truc de cet ordre-là.
La convivialité, ouais. Et puis voilà, de se retrouver et de rire ensemble.
Et puis, évidemment, comme il y a 100 ans, il y a un moment donné, on va souffler des bougies. Et évidemment, quand on fait la fête, on écoute de la musique et on bouge un peu ses fesses. Mmh. Donc voilà, c'était un petit peu cette idée-là.
Eh bien, que d'événements hein, pour ce centenaire. Le programme est très riche, on l'aura compris. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations-là? Puisque, évidemment, les gens vont vouloir peut-être décortiquer un petit peu ce programme pour pouvoir sélectionner les événements auxquels ils voudront participer. On peut le trouver en ligne, mais il y a aussi des exemplaires physiques qui permettent de retrouver tous les détails, c'est ça?
Ouais. Oui, tout à fait. Tous les programmes sont disponibles à la Maison Commune, d'une part, et ils sont aussi trouvables au Trésor. Évidemment, il y a la programmation en ligne sur le site de la ville de Reims, infoculture-reims.fr. Et puis sinon, il suffit de nous appeler aussi, c'est possible. Vous pouvez appeler à la Maison Commune et nous, on vous redonnera toutes les informations, on prendra vos réservations, il n'y a pas de problème.
Peut-être dire qu'ils sont jolis, non?
Ils sont beaux, vos programmes. Et en plus de ça, pour terminer, si vous voulez bien, 2025, c'est quand même une grande année. Là, il y a toute une série d'événements pour votre anniversaire. Mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas tout.
Non, en fait, c'est une... Alors, on est les premiers. Enfin, d'ailleurs, les premiers, c'est pas nous, c'est l'Opéra, avec une exposition sur les ballets suédois. En fait, l'année 25, c'est l'année des 100 ans aussi des arts décoratifs, c'est-à-dire de l'exposition universelle à Paris autour des arts industriels. Et c'est là où le concept même des arts déco est apparu. Donc, en fait, ces 100 ans-là, Reims ayant été rasé, pas complètement, mais beaucoup, beaucoup souffert à la Première Guerre mondiale, a été reconstruit dans les années 20. Et du coup, il y a beaucoup de traces très arts déco dans la ville. Ça n'est pas une ville art déco, mais il y a des bâtiments qui le sont complètement. Par exemple, Carnegie, la bibliothèque, c'est quand même une merveille de l'art déco. Et après, il y a d'autres bâtiments qui portent des traces, des ferronneries, des sculptures, des machins. Le chemin vert, finalement, c'est plutôt le style alsaco-franc-comtois. Cette cité-jardin, elle a été construite dans un style régional. Et pour autant, il y a des détails art déco. Alors, si on va par exemple à l'église Saint-Nicaise, qui est classée monument historique, j'engage tous les auditeurs à aller la visiter parce que c'est une merveille. D'extérieur, c'est une église sur un plan byzantin. Bon, ok, d'accord. Un fake des années 20. Et en même temps que vous rentrez, c'est une merveille art déco. Tout est encore en place. Il y a des peintures de Maurice Denis, qui est quand même pas personne. Les verreries, c'est les verreries de Lalique, qui lui n'est pas non plus personne. Donc voilà, il y a quand même des choses très art déco. Et bon, c'est aussi pour ça que ces 100 ans de la maison commune se sont inscrites. Le théâtre est purement art déco à la maison commune. C'est pour ça qu'on est inscrit dans cette programmation plus vaste qui s'appelle 1925-2025, les folies modernes. Et ça, on retrouvera une programmation tout au long de cette année. Finalement, nous, on est les premiers, mais voilà. Et après, il y a plein d'autres choses. Et puis, dans les centenaires, je crois que c'est également, enfin, c'est pas je crois, c'est aussi les 100 ans de l'hôpital américain, qui est l'hôpital des enfants de Reims, qui sera ouvert, qui est aussi, qui présente aussi des œuvres d'art, puisqu'en fait, c'est un hôpital qui a été décoré à fresque, un peu comme le théâtre du Chemin Vert. Il y aura des moments d'ouverture. Personnellement, je le connais pas, je vais m'empresser d'aller le voir parce que c'est quand même pas mal. Donc voilà, en fait, il y a plein d'événements tout au long de cette année qui vont saluer l'art déco à Reims, des expos, bibliothèques, etc. Et il y a aussi un programme qui ressemble un peu au nôtre, qui est une déclinaison du nôtre. On le voit maintenant, ça fleurit un peu sur les panneaux publicitaires. C'est une jeune femme très art déco avec une couronne. Alors, la nôtre a une couronne qui est composée d'éléments de la maison commune. Et si on regarde cette jolie fille sur fond noir... à une couronne pour le côté art déco, à une couronne en fait avec plein d'éléments art déco de la ville, notamment le lustre de Carnegie, la bibliothèque Carnegie. Voilà.
D'accord, donc on aura encore l'occasion de parler de votre anniversaire à vous au travers d'autres événements. Merci beaucoup à vous deux, Vincent et Cassandra, d'être venus nous parler de l'exposition et de tout ce qui va se faire pour célébrer ce très chouette anniversaire de la Maison Commune 100 ans. Happy birthday.
Grave, merci beaucoup.